Les podcasts d'Opost sont en libre accès et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur opost.fr.
Eh bien bonjour pour ce nouveau numéro d'Opost et de la boîte noire, cette émission qui essaye d'aller un peu derrière les enquêtes journalistiques et le travail des journalistes. J'ai le plaisir d'inviter et de recevoir Anja Nussbaum, qui est donc journaliste agencière, on dit, qui travaille donc pour l'agence Bloomberg, qui est une grosse agence internationale américaine, plutôt spécialisée sur l'économie à la base. Et maintenant, ça fait 7 ans que tu es donc accrédité, c'est le livre que tu as sorti il y a quelques mois, 7 ans au palais de Macron. Donc, ça fait longtemps, ça fait un septennat. C'est habituel, ça, d'ailleurs, qu'une agencière ou un agencier traite sur le long terme, comme ça, un président de la République, et puis reste en poste à l'Élysée. C'est habituel, enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve chez d'autres confrères ou d'autres agences. Bah, c'est... Et est-ce que tu peux expliquer également aux gens qui nous suivent, là, qui vont nous suivre, en gros, c'est quoi le travail d'agencier? Et parce que c'est un peu le premier maillon de la chaîne de l'information. Et donc, voilà, en gros, un peu, quel est ton quotidien? Et comment t'es arrivé aussi là?
Oui, bonsoir. Alors, le travail d'agencier, moi, j'aime bien dire que c'est qu'on fait la matière première de l'information. C'est-à-dire que les agenciers produisent des dépêches, souvent. Donc, des papiers assez courts, assez factuels. Typiquement, une accroche, une citation, si on a une bien, et du contexte. Et puis voilà, on déroule. Et en fait, on va au plus près voilà, de nos sources, de l'action, on écrit une dépêche. Et souvent, les autres médias sont abonnés aux agences de presse. Parmi ces agences de presse, il y a Bloomberg, qui est mon employeur, une agence américaine, tu le disais, mais aussi l'agence France Presse en France. Il y a une agence chinoise, il y a AP Associated Press aux États-Unis, il y a Reuters. Voilà, on est plusieurs L'anglaise. Grandes agences, voilà, et qui est donc la concurrente première de Bloomberg. Et voilà. Et donc, en fait, il y a la matière première vidéo, il y a la matière première audio, il y a aussi la matière première des dépêches. Et parmi voilà, ces agenciers, il y en a qui sont attachés à la couverture de la présidence de la République. Alors, dont moi.
En dont
France, voilà, on est...
Vous êtes combien d'ailleurs à l'Élysée?
Ouais, on est 7. Donc, enfin, souvent, on fonctionne par binôme. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais bon, il y a AP, il y a Reuters, il y a Bloomberg, il y a AFP. Voilà, et on est tous en binôme, sauf une. Et on est en binôme parce que ça fait beaucoup de travail que de suivre la présidence de la République en permanence. Être accrédité à l'Élysée, ça veut dire qu'on a à la fois on suit le président dans ses voyages et ses déplacements. Mmh. Bon. Pas tous, parce qu'il est très actif, il voyage beaucoup.
Ouais.
Mais aussi, on a un badge, ce précieux sésame, qui nous permet d'accéder à l'Élysée, à une petite salle de presse. Voilà. Badge qu'on est 7 à avoir, mais qui ne nous donne pas accès à tout le palais. C'est là que, dès le début du bouquin, je pose les limites. On a accès à l'Élysée, on a accès à cette salle de presse, mais il y a un genre de gentleman's agreement selon lequel on ne va pas se balader dans les couloirs du palais de l'Élysée. Je ne vais pas...
Alors que techniquement, tu peux, en fait.
Alors, on pouvait, mais il n'y a pas longtemps, ils ont mis des... comment on appelle ça? Des badgers, quoi. Enfin, des dispositifs pour qu'on ait besoin de badges spéciaux pour pouvoir entrer.
D'accord.
Mais jusqu'à il y a peu, on pouvait entrer, se balader dans le palais un peu comme vous voulez. Maintenant, il y a certaines limites dans certains... Parce que c'est un vieux palais, en fait. Enfin, il y a des portes dérobées, il y a des accès un peu partout. Si tu veux vraiment, tu peux te balader. Mais non, en fait, on a cet accord qui fait que finalement, on se cantonne à la cour, pardonne-moi, à notre petite salle de presse, et on a en fait fenêtre sur cour. C'est-à-dire qu'on a vu voilà. Sur la cour et les arrivées.
Les arrivées des invités officiels,
absolument.
Plus ou moins officiels, enfin en tout cas...
Plus ou moins officiels. Cela étant, donc, oui. Donc tu te dis tout de suite, ah, elle sait qui vient, qui se rend au palais.
Il y a les invités qui passent par d'autres entrées.
Les visiteurs du soir, mais malheureusement, il y a tous les invités qui passent par toutes les autres entrées de l'autre côté. Donc en fait, si le président de la République veut recevoir quelqu'un, la grille du coq, tout ça, veulent recevoir quelqu'un, ils peuvent le faire sans que les agenciers postés là ne le sachent. Puis bon, on n'est pas non plus là 24-24, quoi.
Je rebondis sur ça, mais il y avait donc... La salle de presse donne sur la cour officielle du palais de l'Élysée, hein, c'est ça, hein, qu'on voit à la télé, généralement, quand il y a les berlines qui arrivent. Bon. Toi, tu commences ton travail à l'Élysée pour Bloomberg en 2019, je crois, l'automne 2019.
Fin 2019,
voilà.
Ouais.
Il y avait eu quelques épisodes que tu relates d'ailleurs. Tu parles, tu réévoques l'affaire Benalla. Bon, ça c'est pour les gros dossiers qui ont un peu, qui ont un peu amusé les journalistes, mais surtout qui ont un peu inquiété la Macronie et même au sein même du château avec les conseillers et compagnie. Mais il y avait eu des frictions avec la salle de presse, les journalistes accrédités, la première collaboratrice que tu cites, conseillère communication Sibeth Ndiaye. Alors, j'explique ou je rappelle, mais quand Emmanuel Macron arrive en 2017, on va dire, prend les clés du château, comme on l'appelle, eh bien, tout d'un coup, alors je ne sais pas qui a pris la décision, mais on veut expulser la salle de presse de l'intérieur de l'Élysée. Ils voulaient la mettre rue de l'Élysée, qui est une rue qui est juste à côté de l'Élysée, mais à l'extérieur du palais.
Exactement. En fait, c'est ce que je raconte dans le livre. C'est que moi, j'arrive fin 2019, il y a un sommet sur l'Ukraine. Donc, je vois Poutine, Zelensky, Merkel, Macron. Et c'est ma prédécesseuse qui faisait mon job avant, qui me prend par la main, qui me guide, et c'est ce que je raconte, hein, qui m'explique, voilà, ça, ce sera la salle de presse, tu vas y passer pas mal de temps. Mais en fait, si tu restes là, tu vas pas non plus accéder à toutes les informations. Mais estime-toi heureuse et défends cet accès précieux. Parce que lorsque nous, on est arrivés, ma prédécesseuse était à l'Élysée pendant 13 ans, hein, donc elle a connu différents présidents. Elle me raconte que à leur arrivée, les journalistes sont confrontés à la chargée de communication que tu évoquais, Sibeth Ndiaye, qui leur dit « On est chez nous, on veut pas de journalistes à l'intérieur du palais, on va débouter, les mettre à l'extérieur. » Alors, quand bien même cet accès est pas, comme je le disais, un accès illimité au bureau du président, c'est quand même assez symbolique d'avoir un symbole du contre-pouvoir, la presse, dans l'enceinte du palais, ce qui permet quand même des échanges informels assez faciles. Bon, les journalistes, du coup, protestent très très fort. Ils font intervenir des intermédiaires qui ne sont pas sur l'organigramme de l'Élysée pour intercéder auprès du président de la République, et ils obtiennent de conserver cette salle de presse, mais dont la taille est divisée par deux. Donc, il reste une petite salle de presse.
Ah oui, ils l'ont quand même réduite.
Et puisque tu évoquais Benalla, il se trouve que Alexandre Benalla, en fait, souhaitait prendre possession de tout cet espace pour créer une nouvelle force de sécurité.
C'est ça, c'est vrai.
Un genre de KGB de la présidence de la République. Je te refais pas l'histoire, mais ça n'a pas eu lieu.
Bon. Alors, je me tourne vers les questions. Il y a Jocelyn qui demande « Ces agenciers accrédités dormaient-ils à l'Élysée ?» tu vas répondre. On va prendre plusieurs questions. Il y a Émeric qui dit « Anya est encore agencière, peut-être un biais. » Alors, ça fait partie de mes questions, mais effectivement, c'est quand même extrêmement rare, je crois, qu'une journaliste en poste à l'Élysée accréditée sorte un livre sous son nom. Généralement, les agenciers et les agencières, on les connaît peu, même s'ils signent leurs papiers, leurs dépêches. Mais c'est, on va dire, ils sont connus du milieu journalistique. Mais généralement, ils se montrent assez peu au grand public. Ça serait une question ultérieure, mais en gros, pourquoi Bloomberg a accepté ? Enfin, j'imagine que tu as présenté le projet et voilà, mais on va revenir dessus. Et alors, il y a aussi Émeric qui dit « J'imagine qu'il y a une enquête de voisinage déjà assise. » Alors ça, je ne crois pas, mais tu vas nous expliquer. Voilà.
Ok, alors, première question, est-ce qu'on dort
et
à l'Élysée ?
Émeric dit « J'ai appris ça lundi soir, j'étais aussi choqué que vous. »
Qui a pris la
photo. Voilà.
Que j'étais toujours agencière, c'est ça ?
Non, je sais pas, mais ou qu'il y a une enquête de voisinage. Tu vas nous expliquer.
Ouais, alors sur le fait de dormir à l'Élysée. Alors il est possible que j'ai déjà passé des nuits très très tard à l'Élysée au bureau, mais jusqu'à dormir, je ne crois pas. Après,
tu peux dormir dans la salle de presse.
Je conseille pas. Franchement, c'est pas hyper confortable. Déjà rester assis. L'été, il fait hyper chaud. L'hiver, il fait froid. La session de la presse présidentielle nous a installé un petit radiateur. Enfin voilà, tu pourrais, hein, techniquement. Je pense que c'est peut-être quelque chose à expérimenter un jour, d'ailleurs. on verra. L'autre question, c'était sur l'enquête de voisinage, parce que je l'ai en tête. Il y a effectivement une enquête. Je n'ai pas les détails, mais évidemment, pour être avoir un badge, il y a une enquête et un background.
Ah oui, donc il y a quand même, ils font attention à qui est nommé par les agences et qui a donc pour être accrédité, d'accord.
Oui. Ouais.
Et donc ça passe, c'est une enquête qui est menée par la DGSI.
Je ne sais pas par qui elle est menée.
Mais elle est menée.
Elle est menée, j'imagine que si tu as un casier judiciaire, ça peut poser problème.
Oui.
J'imagine.
D'accord.
Je ne sais pas.
Mais elle n'est pas poussée au point, par exemple, que ton entourage a été questionné.
Pas que je sache.
D'accord, ok. Ah oui, non, la perquisition. Alors là, je suis perdu dans les questions, mais ce n'est pas grave. Oui, la perquisition, peut-être que c'est la perquisition liée à l'enquête actuelle sur, je crois, les sous-traitants sur les cérémonies officielles, ouais. Et celle de mon ange petit, mais on reviendra de ça bien après.
Ouais.
Mais la question que j'avais précédemment, c'était...
Sur ton employeur. Oui. Alors, les agenciers, effectivement, sont souvent des journalistes, entre guillemets, de l'ombre, des scribes, voilà, qui écrivent, ouais, qui ne se mettent pas vraiment en scène, qui interviennent comme rarement dans les émissions télé, même s'il y en a, enfin, Elisabeth Pino,
oui,
de Reuters,
on
voit souvent sur les plateaux. Parce qu'en fait, souvent, c'est même presque... la fiche de poste, c'est-à-dire que on signe à l'AFP par ses initiales, voilà, on se met pas en scène. C'est plutôt des gens qui n'aiment pas la lumière souvent. Enfin, je fais une généralisation. Pourquoi avoir fait ce livre maintenant ? Ben, ouais. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je n'aurai sans doute pas le temps pendant la campagne présidentielle qui s'amorce. Que je pense que c'est important d'avoir ce genre de discussion et de faire un bilan de ces années Macron avant les échéances électorales qui arrivent. Et parce que tout simplement, on me l'a proposé en réalité. Hein, mon éditeur m'a proposé ça, donc ça s'est fait un peu naturellement. Et c'était plus facile effectivement que de faire ça maintenant, alors qu'on se
lance dans la course de petits choux. Ta première réaction, quand on t'a proposé le projet, c'était quoi ?
Ouais.
C'était j'y vais pas, je saute dans le grand bain.
Bah, évidemment.
Un livre, ça expose quand même.
Ça expose, oui.
Même si t'as déjà travaillé sur d'autres projets qui exposaient, mais,
ouais.
Mais ça expose.
Bah, évidemment, tout ça est fait en concertation avec l'agence. Et, enfin, c'est évident qu'il voilà, fallait les consulter avant. Donc voilà, ils étaient partants. Et voilà. Après, si tu lis le livre, tu te rends compte que... Alors, autant je cite des noms, autant je respecte la règle du off. Et souvent, lorsque l'Élysée fait des briefings, voilà la règle. Donc, ce sont évidemment des vraies personnes qui nous briefent, qui ont une histoire, un passé, des affects. Mais on les identifie comme un officiel de l'Élysée, un proche du palais. Enfin, voilà, en fait, a dit pendant un briefing aux journalistes. Donc, en fait, on les anonymise. C'est un vrai faux anonymat parce qu'en fait, ces formules-là signalent. On sait que ça vient d'un briefing officiel. Donc. De fait, je garde cet anonymat, sauf lorsque les conseillers eux-mêmes ont décidé de témoigner en on ou lorsqu'ils se sont mis en scène, par exemple dans des documentaires ou sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc en fait, je fais en sorte de garder voilà, tous ces accès, de protéger toutes ces personnes, de protéger toutes les sources. Et je m'utilise, moi, en fait, comme personnage principal de ce livre. C'est un effet... Bon, c'est un tour de passe-passe pour aussi ne pas avoir à trop mettre dans la lumière d'autres personnes et à raconter ces histoires de mon point de vue, moi, ce qui est plus facile.
Ouais. Dans le même temps, tu racontes quand même beaucoup de coulisses, tu racontes beaucoup d'impressions, tes impressions personnelles sur le président, sur comment se déroulent les coulisses, les différents certains épisodes marquants des deux quinquennats, notamment sur les voyages officiels, la diplomatie Macron. Là aussi, pareil, on va revenir dessus. Et tu es venu voir des macronologues, on va les appeler comme ça, enfin, notamment les déçus de Macron, des anciens conseillers ou toujours des conseillers. Tu le dis, toi, d'ailleurs, à un moment donné du livre, sur la question de la distance à ton sujet. Donc, on va peut-être parler de ça, mais tu évoques les gens qui sont finalement, même quand ils sont mécontents de Macron, quand ils se sont retrouvés dans son entourage d'une manière ou d'une autre, gardent une forme de fascination où il suffit qu'ils dînent ou déjeunent de nouveau avec Macron une fois et puis finalement, ils lui pardonnent beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce rapport, on va dire
oui.
Complexe avec, et puis alors à la fois de tes interlocuteurs avec le président Macron, mais également de toi avec un président de la République. Parce que ouais, je te laisse parler, après j'aurai d'autres questions.
Alors sur mon rapport à moi avec le président, bah, moi j'arrive, j'ai pas vraiment d'a priori avant de couvrir la présidence de la République, enfin d'écrire des articles sur la présidence de la République. J'écrivais sur le secteur industriel et les voitures. Donc, je couvrais les PDG avec des secteurs, donc, que ce soit Airbus, Air France, Renault, où il y a des participations d'État assez fortes. Ce qui veut dire que j'étais quand même en lien avec les acteurs du gouvernement, mais j'avais pas, voilà, j'étais pas dans, dans ce monde-là politique. Voilà. Contrairement à certains de mes confrères qui ont connu Macron avant son arrivée à la présidence de la République et qui ont pu tisser des liens avec lui au moment où Macron ouvrait beaucoup sa porte aux journalistes. Moi, ce que je décris dans le livre, c'est qu'en fait, à son arrivée à la présidence en 2017, il y a beaucoup de ces portes qui se referment. Mmh. Beaucoup de journalistes qui pensaient avoir un accès privilégié avec Emmanuel Macron qu'ils avaient rencontré lorsqu'il était soit ministre, soit secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Hollande, qui se retrouvent en fait à ne pas avoir les accès promis et puis à être souvent déçus. Enfin, par exemple, Domenac et Safran dans leur livre Néron à l'Élysée, on sent quand même une certaine déception de ce point de vue-là. Bon. Donc moi,
par rapport à leur accès au...
Je pense qu'il faut être honnête, je pense que je l'aurais partagé aussi. C'est-à-dire que quand, c'est ça le travail de journaliste, on crée voilà, des sources et puis après on espère avoir un accès à l'information et lorsqu'on ne l'a pas, on est évidemment déçu. Mais... Donc voilà, donc, moi je raconte aussi personnellement ma découverte du palais. Donc des us et coutumes du palais, du dress code aux effets de cour, l'aréopage qui entoure le président, les flashs qui crépitent, les petites attentions qui changent tout. Est-ce que ou non vous allez dans la voiture avec lui, tel conseiller va dans la voiture avec lui, voilà. Est-ce qu'il tutoie, vous voit, enfin il tutoie beaucoup assez facilement. Mais voilà, donc ce rapport-là, moi qui découvre le président, moi qui découvre ses mots, etc. Mais aussi les
Macron, il en joue. Ça en plus
de
ce cérémonial, de ce petit théâtre.
Mais il utilise vraiment à fond tous les attributs de la cinquième et même voilà les ors de Versailles par exemple. Il réunit les investisseurs à Versailles, voilà pour en mettre plein la vue. Voilà, ça fonctionne, hein, ça fonctionne très bien et ça fonctionne. Mais même, je veux dire personnellement, je décris ce phénomène où voilà, le respect de la fonction fait que on se met certaines limites, quoi. Voilà. Et donc il y a aussi par ailleurs moi qui veux en voulant découvrir le personnage qui arrive pendant le Covid en fait, parce que j'arrive fin 2019, tout se referme, je me retrouve comme tout le monde enfermée dans un minuscule appart à Paris et je commence à lire tous les bouquins sur Emmanuel Macron dont moi j'avais déjà lu. Le tien, mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai peut-être déjà lu le deuxième, je ne sais plus quand il est sorti, mais bon, alors j'ai relu le tien. Et je me prends aussi, comme tout journaliste, souvent, on a un peu un rapport monomaniaque à nos sujets, on a envie de les connaître à fond. Donc voilà, je lis tous les livres qui sont sortis sur ce personnage, je rencontre des personnes qui l'ont accompagné.
Tu penses que tout le monde fait ce travail-là, dans le métier ? Je veux pas des noms, hein, mais...
Je pense que quand même, parmi mes confrères agenciers de l'Élysée, on est tous très, très intéressés pour craquer le code, quoi. Enfin, on a tous envie de comprendre. Je pense qu'on est assez nombreux à se lancer à fond dans le sujet de ce point de vue-là, du pan de journalisme agencier. Je rencontre d'anciens conseillers, comme tu disais, souvent déçus, les actuels qui sont au palais. Il y a un certain turnover, notamment dans la com, donc on en voit passer plusieurs. Et eux me décrivent ce phénomène de séduction que tu décrivais, en fait, qui est que, outre évidemment la fonction présidentielle qui fait que voilà, ça donne un. Le costume présidentiel force le respect. Il y a un truc qui se passe. Des ministres qui disent voilà, je le tutoyais le jour où il est devenu président, ça s'est fait tout seul, je me suis mis à le vouvoyer. Enfin, mais il y a aussi cet effet Emmanuel Macron très, très séducteur, comme tout animal politique, qui accroche votre regard, qui est très, très, très tactile. Je raconte la fois où il m'a fait un clin d'œil. Au détour d'une question sur la finance verte, où je me dis ah oui, le président de la République, t'as fait un clin d'œil. En fait, je me rends compte qu'il fait ça à absolument tout le monde et que c'est presque un mode de communication au palais. Voilà. Donc, je décris ces effets de cour et des séductions dont je suis la témoin. Et je rencontre des gens qui, décrivent ce phénomène selon lequel. Quand bien même ils ont été déçus par Emmanuel Macron parce que des portes se sont fermées, parce qu'ils n'ont pas écouté leurs conseils, voilà, parce que en fait, il suffit d'un dîner, il suffit d'un petit mot de sa part et ils sont entre guillemets réactivés, quoi. Le charme opère à nouveau. Et certains décrivent ça comme un envoûtement. Auquel il faut en tant que journaliste.
Tu parles, à la fin du livre, tu te demandes si toi-même, tu n'étais pas victime du syndrome de Stockholm.
Ah oui, du syndrome de Stockholm. Pour l'anecdote.
Pas dit que tu étais envoûtée,
non,
du tout.
Mais pour l'anecdote, mon père, qui n'a pas trop compris, a cru, en lisant le livre, m'a dit, mais en fait, tu as été envoûtée. Je lui ai dit, ah non, ce que j'explique, c'est que je n'ai pas eu d'entretien avec le président de la République pour ce livre. Ouais, ouais, moi-même, je l'ai demandé. Et ce que j'explique, c'est que y a ces personnes-là qui se sont laissées séduire par le président de la République m'ont dit peut-être que c'est tant mieux, parce qu'il t'aurait peut-être envoûté, il t'aurait peut-être retourné le cerveau par ses capacités de séduction et de post-rationalisation. Voilà.
Attention sur l'instant, on va dire, c'est comme ça.
Oui, exactement. Donc ce que je dis, c'est que justement, super, du coup, il m'a pas envoûté. Mais effectivement, certaines personnes décrivent un phénomène de ce type.
Je tiens à expliquer que le livre est, d'une certaine manière, c'est un livre à la fois personnel et d'agencière, j'allais dire, donc très factuel, mais où tu te racontes aussi. Et je dis très factuel parce que tu citais deux illustres confrères il y a quelques minutes, Domenac et Safran. On n'est pas dans du journalisme politique traditionnel à la française. Ça sera d'ailleurs une question que j'aurai après par la suite. Mais voilà, tu fais surtout du news, tu travailles pour une agence, tu dis que tu fais des dépêches, donc tu travailles sur... des infos qui, entre guillemets, qui tombent, t'essayes de les décrypter rapidement, de les annoncer. Et puis en plus, dès que t'écris une dépêche, ça part dans tous les médias. Donc, on va dire, la puissance de feu de Bloomberg, c'est considérable. Donc, il suffit que tu fasses une erreur. C'est un boulot qui est quand même extrêmement stressant de ce point de vue-là. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans le livre, t'es quand même... t'es ni dans la flagornerie, ni dans le pamphlet. Mais tu es quand même très lucide sur le sujet, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu expliques les insuffisances, les travers, les incompréhensions de l'entourage. Tu évoques plusieurs fois le bilan, notamment le bilan diplomatique. Donc, c'est quand même un exercice auquel tu t'es prêté. Où il y a une forme d'engagement dans l'écriture, dans le travail que tu as fait sur le livre, parce que encore une fois, tu travailles pour Bloomberg, donc t'as une liberté dans un certain cadre d'agence.
Sur la force de frappe, alors oui, c'est-à-dire que moi, j'ai pas précisé ça, mais moi, mes dépêches, elles sont écrites, enfin, j'écris en anglais. Donc pour un public qui est plus large que le public francophone, donc effectivement, c'est un public très vaste, et c'est répercuté dans plusieurs autres médias, et puis auprès des lecteurs et clients de Bloomberg. J'écris des dépêches en général quand même assez sérieuses. Les agences ont établi leur réputation sur le fait qu'elles ne font pas d'erreurs. Alors évidemment qu'il y a des erreurs, évidemment.
Ouais, ça, c'est inévitable. C'est humain.
C'est humain, il y a des erreurs, il y a des corrections, voilà. Je dirais, tant qu'on les corrige et qu'il n'y en a pas trop, ça va. Donc c'est un journalisme très rigoureux, très basé sur les faits et qui se veut, parce qu'en fait, lorsque les agences sont créées historiquement, leur business model, c'est de dire... c'est une époque où les médias veulent avoir une couverture à l'étranger. Donc, il y a des agences qui sont basées à l'étranger, qui écrivent des dépêches et qui leur envoient des dépêches. Et les dépêches doivent être vendues à tout type de médias, depuis l'Humanité jusqu'à, Figaro, Valeurs Actuelles. Donc, en fait... ça veut dire qu'elles doivent être, entre guillemets, neutres. Bon, alors on fait un travail, on essaye de produire une dépêche qui est la plus factuelle possible. Donc c'est un travail, c'est un effort journalistique. Ça peut être du coup un peu moins drôle à lire qu'un essai politique ou un pamphlet. Alors du coup, moi j'ai pris le parti de ne pas écrire ni de commentaires politiques, parce que je ne suis pas légitime à faire ça, ce n'est pas non plus mon métier, voilà. Ni un pamphlet, ni un essai. Il y a quelqu'un qui a décrit ça comme un essai de terrain. Je trouve que c'est sympa, c'est pas mal. Parce qu'en fait, c'est ça, oui, c'est raconter les faits, mais aussi reconnaître la subjectivité inhérente au journalisme. Que de toute façon, je suis témoin de ces faits. Dès lors, il y a un filtre et une certaine subjectivité qui est à l'œuvre, même si on essaye en permanence de la rabrouer. Et de se remettre sur les rails.
Oui, tu rapportes en fait ce que tu vois. Parce que les... Il y avait une question juste avant sur est-ce que agencière, il y avait c'était quelque chose en rapport avec les conférences de presse. Bah, dans les conférences de presse, il peut y avoir tout le monde,
ouais.
Mais vous faites, enfin en tant qu'agencier, vous faites souvent ce qu'on appelle les points presse. Mmh. D'ailleurs, tu parles de la période Covid avec Gabriel Attal, qui devient porte-parole. On l'a oublié, il est devenu ensuite Premier ministre, mais à l'époque, il était porte-parole du gouvernement. Tu expliques que sa phrase favorite, c'est « je vais m'en renseigner » quand il ne sait pas quoi dire. Alors là, j'ai une double question, c'est voilà, est-ce que ce n'est pas fastidieux ces points presse, c'est-à-dire est-ce qu'on apprend vraiment quelque chose d'un point de vue journalistique ?
Non, mais j'adore les points presse, Marc.
Et puis surtout, parce qu'en plus, tu as eu travaillé pour aussi des médias anglo-américains avant d'arriver chez Bloomberg. Mais et puis tu évoques également tes confrères étrangers, tant d'agences qu'étrangers tout simplement. Voilà, c'est quoi les spécificités d'un point presse à la française, au regard de ce qu'on entend par point presse, par exemple à la Maison-Blanche, avec la salle de presse, où c'est quasiment mythique, d'une certaine manière, les questions-réponses de la presse, où les journalistes américains sont quand même, on va dire, entre guillemets, hargneux, enfin, c'est pas le terme, mais en tout cas, sont pugnaces, lâchent rien. Bon, tout ça, c'est aussi du théâtre, mais voilà, comment ça se passe en France de ce point de vue-là? Ouais. Parce que parfois, on voit les images sur les chaînes d'information continue, oui, qui parfois mettent en direct ces points presse. Mais bon, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et donc, question derrière, tu travailles pour Bloomberg, donc on l'a bien compris, c'est une agence spécialisée notamment sur l'information économique, comme Reuters. Donc c'est pour ça que tu disais que Reuters, l'anglaise, était votre principal concurrent. Information économique et financière, vous faites également d'autres sujets, donc politiques. Mais d'une certaine manière, tu travailles pour une agence étrangère, donc tu as une distance plus importante, j'imagine, que ta collègue ou ton collègue de l'AFP, ou même que d'autres confrères français. Voilà, est-ce que tu peux décrire cette ambiance et le fait que toi, finalement, tu as quand même une distance avec le sujet de par ton employeur, de par ta fonction chez Bloomberg.
Ouais. Alors, sur les conférences de presse, je pense ce que tu évoquais, ou ce que c'était Émeric, je ne sais pas, évoquait, c'était les points presse du porte-parole. Donc, ce sont le porte-parole du gouvernement, ou la porte-parole, en l'occurrence, en ce moment, Maud Bréjon, fait un point presse une fois par semaine après le Conseil des ministres. À une époque, pendant le Covid, c'était effectivement Gabriel Attal, en tant que porte-parole, qui faisait ces points presse. Et à l'époque, c'était vraiment... Enfin, la moindre de ses paroles était guettée par tout le monde et par les chaînes d'infos, parce qu'on attendait tous un éventuel reconfinement, une nouvelle mesure, que sais-je, est-ce qu'on sera, pourra plus aller faire ses courses dans un périmètre de 3 km ou pas, enfin voilà. Donc en fait, il a acquis beaucoup de notoriété à ce moment-là. Est-ce que ces points presse-là sont intéressants? Parfois oui, parfois on y va juste parce qu'on a besoin de demander un commentaire sur un article qu'on a déjà écrit et dont on sait qu'il faut donner l'opportunité aux porte-parole et au gouvernement de donner un commentaire. C'est le principe du contradictoire qu'on s'applique à nous-mêmes, journalistes. C'est que, par exemple, on écrit quelque chose sur quelqu'un, on donne la possibilité à ce quelqu'un de répondre et voilà, de commenter. Bon, en réalité, il y a quand même très peu d'informations qui sortent de ce porte-parole-là, mais pour plusieurs raisons, et ça n'a pas toujours été le cas. Déjà, aujourd'hui, en France, il n'y a pas de porte-parole de l'Élysée. Mmh. Il y en a eu un très très brièvement, c'était Bruno Roger Petit sous Macron. Enfin, sous Macron, il y en a eu un brièvement, il y en a eu par le passé. Hein. Jusqu'à ce que l'affaire Benalla arrive, qui fasse un point presse assez catastrophique, dans le noir, avec des lumières qui tombaient, qu'on m'a raconté parce que j'étais pas là, mais qui disent des erreurs, des choses fausses sur Alexandre Benalla, et que du coup, il change de job et que la fonction n'existe plus. Ce qui fait que les journalistes s'en sont réduits à soit, et quand on a des questions très très directes à la communication de l'Élysée, on pose la question au chargé de communication d'Emmanuel Macron ou à la porte-parole ou au porte-parole du gouvernement. C'est pas effectivement pas le même exercice qu'aux États-Unis, mais ça dépend vraiment, je pense, de la personnalité du porte-parole, de sa force politique et de la liberté que le président veut lui donner. Emmanuel Macron, lorsqu'il arrive au pouvoir, il arrive avec un nouveau parti qui est fait de, enfin, composé de gens qui lui sont extrêmement fidèles parce que ils lui doivent leur ascension, pas des barons, voilà, ou des anciens strauss-kaniens, mais bon, voilà, qui ramènent à lui. Et donc, il n'a pas de poids lourd très, très fort autour de lui. Il ne fait pas émerger des ministres très puissants. Il montre toujours à ses ministres qu'il connaît mieux leur sujet qu'eux-mêmes, les remettant ainsi à leur place. Donc voilà, ce qui fait qu'il n'a pas de porte-parole fort qui pourrait distiller une parole forte et peut-être un peu indépendante, comme ça a pu être le cas par le passé. Et ce moment qui était un moment informel sous François Hollande, par exemple, j'étais stagiaire à l'époque, donc j'ai vu des conseils des ministres sous François Hollande quand j'étais en stage. Il y avait un rapport qui était aussi plus informel, plus fluide avec le porte-parole, avec le porte-parole, avec les ministres. Il y avait plus d'accès, on pouvait leur crier des questions à la volée. Ils se retournaient parfois, répondaient parfois. Ça n'a plus à cours parce que c'était une consigne du secrétaire général de l'Élysée, donc enfin d'Alexis Kohler, mais aussi d'Emmanuel Macron, de ne pas répondre aux questions des journalistes. Il la respecte voilà dans ce cadre-là au palais et dont acte. Et par ailleurs, il y a l'effet réseaux sociaux. La conférence du porte-parole est transmise directement sur les réseaux sociaux de la présidence de la République, ce qui laisse quand même, enfin ce qui veut dire que chaque moment voilà est scruté, ce qui laisse un peu moins de place à la liberté. Et voilà. Et ta deuxième question, c'était sur le fait de travailler pour une agence anglophone.
Oui. Ouais. En gros, est-ce que le fait de travailler pour Bloomberg te permet, entre guillemets, plus de marge de manœuvre, tout simplement, que par rapport à ton confrère ou ta consoeur, je ne sais pas, de l'AFP actuel, ou même des autres journalistes politiques, là pour le coup, journalistes politiques à la française ou parisien, parce que généralement, les confrères étrangers, parce que tu l'évoques à propos d'ailleurs d'une conseillère en communication, enfin chargée de la communication pour les affaires internationales, tu évoques Anastasia Colosimo sur quelques paragraphes, donc elle a été conseillère pendant 2 ans, je crois, auprès de Macron, et Anastasia Colosimo a été connue pour, on va dire, son franc-parler ou ses engueulades ou parfois sa vulgarité, je ne sais pas, mais enfin, un mélange de tout ça. Il y a eu des papiers de presse sur elle, d'ailleurs. Et tu expliques, tu notes que les journalistes étrangers autour de toi étaient interloqués de la manière dont elle se comportait vis-à-vis des journalistes en général. Et donc, voilà, donc je me demandais si par rapport, on va dire, à la fois au décorum hyper présidentiel de la Ve République d'un côté, que tu décrivais déjà depuis le départ, cette société de cour de l'Élysée, ces petits codes, cette attention du président, bon, tout ça qu'on ne trouve pas forcément dans les autres pays démocratiques, entre ce décorum-là et de l'autre côté, les réflexes habituels des journalistes français, on va dire ça comme ça, de déférence quand même, vis-à-vis de la fonction présidentielle, et y compris des gens qui, on va dire, traduisent cette fonction présidentielle, les conseillers et autres. Voilà, ta pratique est-elle différente par rapport à ce cadre-là?
Ouais, alors pour faire la transition, c'est vrai que je peux te parler des journalistes de la Maison Blanche qui sont aussi accrédités, puisqu'en fait notre profession accréditée à l'Élysée, elle est modelée ou inspirée sur ce qui se passe à la Maison Blanche, où tu as un corps de journalistes que tu évoquais, voilà, souvent qu'on identifie nommément, qui sont un peu connus et qui sont dans la White Press Association, et dont on a entendu parler à cause du dîner de leur association il y a quelques jours. Mais bon, donc c'est un corps institué, très professionnalisé au sens où ils font des notes de poule. Alors, ça n'a rien à voir avec les animaux. Notes de poule, ça veut dire qu'on se partage, que les journalistes se partagent les notes entre eux et qu'ils notent chaque fait et geste du président. Voilà. Et il y a une chaîne de mails et voilà, ça se partage. Et nous, on fait un peu ça aussi, mais à une échelle un peu plus restreinte et avec des accès qui ne sont pas ceux que les journalistes américains obtiennent, même sous Trump en réalité, hein, c'est-à-dire un accès à l'avion présidentiel, mais tout le temps, des possibilités régulières de lui poser des questions, alors qu'effectivement, et c'est un choix d'Emmanuel Macron lorsqu'il arrive à la présidence aussi, de refermer les portes, il faut attendre, je crois, 2 ans pour qu'il y ait une vraie conférence de presse avec le président de la République à l'Élysée, pas une conférence de presse à la volée après un sommet européen ou à l'étranger, mais vraiment à l'Élysée où il répondrait aux questions des journalistes. Donc c'est une pratique qui est rare et qui est beaucoup plus fluide aux États-Unis, avec le bémol voilà, des attaques ces derniers mois, évidemment, sous la présidence Trump, ça devient de plus en plus compliqué. Mais historiquement, les journalistes américains ont un accès que nous, journalistes français, nous n'avons pas avec notre présidence. C'est ce qui fait briller leur réputation de grande démocratie. Mais par exemple, je décris, je crois, cette scène où dans un G7, Biden arrive avec une flopée de journalistes américains qui ont, donc on est en Cornouailles, hein, qui ont un accès à leur président qui est évidemment beaucoup plus fort que le nôtre, qui le suivent partout. Et quand on se retrouve les uns les autres, moi, je veux poser des questions à mon président, eux veulent poser des questions à leur président. Évidemment, ils sont plus grands, plus beaux, plus forts, et ils arrivent à poser leurs questions et ils sont mieux placés parce que la présidence sera négociée d'être mieux placé. Donc ça, voilà, ça c'est des effets de pouvoir et de puissance entre les deux pays qui se voient même dans la manière dont on a accès ou pas, qu'on négocie ou pas l'accès à leur, entre guillemets, leur journaliste. Quoi. Et sur la pratique, ouais, c'est certain qu'en tant que journaliste étrangère, enfin qui représente en l'occurrence la presse américaine, un média étranger. J'ai pas, surtout, enfin la plus grosse différence, c'est que je n'ai pas les mêmes points d'attention. Je produis pas les mêmes articles ou analyses que mes confrères et notamment mes confrères français, sachant que moi mes points d'intérêt ce sera évidemment la politique économique, grande réforme, aussi la diplomatie, les relations avec les US, le UK, la Chine, et la politique commerciale. En gros ce sera des points focaux. Et en plus, depuis en réalité il faut le dire, depuis l'invasion à grande échelle de 2022 de l'Ukraine, la défense qui vient s'ajouter à ces préoccupations. Alors que des journalistes français vont vraiment tout documenter et faire une dépêche, quel que soit le sujet. Moi, par exemple, je ne vais pas traiter tous les sujets éducation. Il y a plein de choses qui ne vont pas passer sous mon radar. De toute façon, humainement, je n'aurai pas le temps. Et en réalité, les lecteurs de Bloomberg ne recherchent pas forcément ça. Et les lecteurs, même les lecteurs américains ou étrangers qui ne sont pas français, ne savent pas forcément, par exemple, maintenant ils savent peut-être qui est Gabriel Attal, j'ai donné cet exemple, mais ne vont pas savoir qui est Gérald Darmanin, par exemple. Il va falloir réexpliquer à chaque fois, donner du contexte, et ce qui fait que les articles ne sont pas du tout les mêmes.
Ça faisait partie des questions nombreuses. C'était le rapport au off. Tu as commencé un peu à l'expliquer, comment tu travailles ce rapport au off là, mais tu as commencé à l'expliquer. Et puis, c'était une question, une double question, mais est-ce que les agences, c'était la formulation, font des reportages autonomes? Alors, je pense que c'est une double question, mais c'est lié. Est-ce que, en gros, et je sais, tu fais des papiers uniquement qui couvrent l'actualité à laquelle tu es confronté d'une certaine manière, mais tu fais aussi des papiers d'angle, enfin ce qu'on appelle des papiers d'angle. Des papiers d'angle, c'est quand tu choisis une question et que tu la traites à partir de ton travail et puis avec l'actualité, mais où en gros, tu as une thématique et tu la traites comme si c'était une enquête d'une certaine manière. À ton niveau, mais c'est quand même une enquête. Et donc, d'ailleurs, tu les cites parfois dans le livre sur les sujets internationaux, où tu apportes aussi des analyses, et des analyses qui sont également autonomes. C'est ton analyse qui est ensuite publiée dans l'ensemble du réseau Bloomberg dans le monde entier. Donc, tu développes une expertise sur ce qui se passe à l'Élysée et dans la politique française, enfin, au niveau diplomatique, économique, comme tu le disais. Donc, en gros, tu as une autonomie journalistique parce que, en gros, tu n'es pas là en tant que simple relais de la communication de l'Élysée ou du gouvernement.
Bah, c'est tout le challenge, c'est-à-dire qu'en fait, la présidence de la République, enfin la France étant un régime centralisé et le président étant touche à tout par personnalité, mais aussi par construction de son poste, de sa fiche de poste, on pourrait passer notre vie à suivre ce que fait le président de la République et raconter ses moindres faits et gestes. mais là, il faut arrêter tout de suite, ça n'a pas d'intérêt. Et d'une, et de deux, on en serait réduit à suivre, en fait, les séquences. Voilà, pour parler en termes de communicants, qu'on veut nous imposer. Et on serait toujours à la remorque, pardonnez-moi l'expression, mais à la remorque de l'info, quoi. Enfin, à ce moment-là, on n'aurait jamais le temps même de développer notre analyse propre. Donc, le premier truc, c'est le news judgment, voir qu'est-ce qui est news, qu'est-ce qui n'est pas news, et qu'est-ce qui est nouveau pour nos lecteurs, intéressant pour nos lecteurs. Et de deux, de temps en temps, s'extraire de ce flux continuel de news macronienne ou même diplomatique, ou voilà, trouver un angle, prendre un peu de temps pour rencontrer des experts, développer un sujet et proposer une analyse un peu différente.
Alors, comme toi, tu es souvent, comme tu l'as rappelé, sur des sujets quand même de fond et complexes, défense, économie, diplomatie, c'est là où tu trouves une certaine marge de manœuvre parce que tu es moins, entre guillemets, sous le joug, entre guillemets, de la communication politique de râle et pâquerette qui est servie à tous les médias français, quoi, en gros.
Mais il faut garder un œil dessus. Il faut quand même garder un œil dessus.
Parce que ça a un effet politique.
Ouais, donc il faut arriver à tout faire et à voir à quel moment ça devient de la news, à quel moment ça passe au-dessus de... À quel moment la parole devient performative, quoi. Et il faut écouter, en fait, ce que je fais. J'écoute tout ce que dit le président de la République. Certaines choses d'une demi-oreille, parce que je sais que j'ai déjà entendu répéter les mêmes éléments de langage. Mais il y a effectivement un moment où il faut aller voir ailleurs et sortir du palais, et même physiquement, en fait. C'est quelque chose que je décris, c'est-à-dire que je découvre cette salle de presse, ces accès qu'on a et ces accès qui sont intéressants pendant les voyages, suivre le président de la République sur le terrain. Là, je reviens de Chypre, il était en Grèce, il va en Arménie, mais aussi arriver à trouver des contacts qui ne sont justement pas liés au palais, qui peuvent vous aider à prendre et garder du recul et de l'expertise, qui ne sont pas juste du spin politique.
Ouais.
Il faut déceler le spin du non-spin. Ça, c'est aussi le challenge.
Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le spin?
Ouais. Le spin, c'est la communication. C'est la manière de tourner les faits pour qu'ils rentrent dans le narratif ou l'histoire, en fait, que veulent vous raconter les communicants. Et en gros, pour simplifier, l'histoire que veulent vous raconter les communicants d'Emmanuel Macron, ce sera qu'Emmanuel Macron a toujours eu raison depuis le début et qu'il est un oracle. Enfin, c'est à peu près ça. Même si, maintenant, c'est un peu rigolo de le dire comme ça. Il faut arriver à prendre du recul par rapport à ce narratif et puis et rencontrer d'autres personnes. Et oui, sur les questions, pour le coup, j'ai beaucoup à faire sur les questions de dissuasion nucléaire, d'Europe de la défense, d'économie de guerre, ou en l'occurrence non-économie de guerre. Les relations, qu'est-ce qui se passe vraiment avec Trump par rapport à Biden.
On va revenir dessus, c'est une partie très intéressante de ton livre. Oui, tu parlais de séquences tout à l'heure. D'ailleurs, immédiatement, tu as dit « Ah, je reprends du vocabulaire de communicant. »
Absolument.
Mais à coup le pas. Mais moi aussi, ça m'arrive. C'est vrai que dans le livre, l'actualité s'enchaîne, les séquences s'enchaînent. C'est-à-dire que à un moment donné, comment tu reprends ton souffle là-dedans?
Ouais.
Et surtout... tu le dis toi-même, les communicants et l'entourage de Macron jouent avec ces séquences, parce qu'en fait, c'est le syndrome poisson rouge de notre société, avec les gens qui sont pris d'attention par les réseaux sociaux, et donc les séquences s'enclenchent de plus en plus, les polémiques, les séquences s'enclenchent de plus en plus vite, et donc c'est quand même très difficile de...
L'information, on est tous noyés sous l'information. Le problème que je décris, et je dis pas que j'ai trouvé l'antidote absolu, mais le problème que je décris, c'est que en fait ça va tellement vite, il y a tellement de choses à couvrir, même quand on couvre pas, à surveiller, comme du lait sur le feu, surveiller ce président et tout ce qu'il fait, on pourrait en permanence surveiller, regarder ce qu'il fait et se laisser guider par ces séquences. Les séquences, c'est quoi? C'est un terme donc inventé par les communicants pour décrire, séquence écologie. Voilà, ça, c'est la séquence écologie du président. On va faire...
Ça, c'est ce que les conseillers te disent parfois.
Par exemple, on va faire... on se rend compte que sur une semaine, ils vont faire une interview exclusive, faire un déplacement dans une usine de batteries électriques qui vient d'ouvrir, distiller quelques informations, faire un conseil de défense sur le nucléaire, circulaire, j'ai vraiment un, ou de défense écologique, pardon, j'invente, mais voilà. Et puis en fait, voilà, on va nous dire on a fait ça, ça et ça. Et en fait, on est pris la semaine d'après par une actualité, je sais pas, sur les questions commerciales et Donald Trump. Et en fait, on finit par être pris la semaine d'après par une autre actualité sur l'éducation. Bref. On se réveille, je ne sais pas, un an plus tard, on peut se demander qu'est-ce qui a en réalité été fait sur cette séquence écologique. Et si on ne se pose pas la question, on a juste couvert le « Macron dit qu'il veut faire X, Macron prévoit de faire X ». Et en fait, il y a un moment, il faut arrêter et dire qu'on va regarder dans le rétroviseur. Le livre, c'est pas mal aussi pour regarder dans le rétroviseur et « take stock », comme on dit en anglais. Donc, voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et ça, ça impose de ne pas se laisser totalement... guidé par l'agenda, sachant que c'est aussi une stratégie des politiques que rendre cet agenda tellement dense, tellement rapide. Enfin, Emmanuel Macron a appelé son parti En Marche, c'est pas pour rien, c'est une cible mouvante. Il est toujours en train de faire autre chose et de pas nous laisser le temps de se reposer, de réfléchir à, effectivement, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a pas fait. Bon, là, il va falloir quand même qu'il tire un bilan dans l'année qui vient. Mais c'est aussi à nous de prendre le temps de s'arrêter et de regarder. D'où le livre.
Et justement, sur les sujets que tu évoquais, défense, diplomatie, les conseillers avec lesquels tu parles ou auxquels on te donne accès parfois, donc ce n'est pas forcément des conseillers communicants, c'est également les conseillers techniques, les conseillers diplomatiques. Tu rencontres, j'imagine, aussi des conseillers, entre guillemets, hors Élysée, enfin, qui travaillent dans des ministères ou autres. Ils sont contents de parler du fond, aussi.
Oui. Alors, il y a effectivement... Il y a plein de types de conseillers, ouais. Il y a les conseillers techniques, il y a les conseillers voilà, sur les sujets économiques, il y a la cellule diplomatique, c'est à la fois ce qui se passe à Téhéran, à Moscou, et... Enfin, enfin, on espère qu'ils savent à peu près ce qui se passe. Et à Bamako, j'allais dire, mais c'est les pires exemples.
Ou tu veux dire, ils se la racontent un petit peu aussi.
Non.
Je ne veux pas te donner des ennuis, de faire tes ennuis.
Exactement. ne cherche pas la petite bête.
C'est moi qui parle.
Cellule Diplo, voilà, conseiller éco. Il y a le pôle conseiller communication et politique qui est en gros... qui fait du storytelling et qui cherche le dernier coup à faire pour la presse. Donc voilà, il faut déjà arriver à cibler quels sont les objectifs de chacun et la manière de s'exprimer. La manière de s'exprimer de la cellule diplomatique peut parfois être un peu... Enfin, il faut s'habituer au langage diplomatique, parfois un peu cryptique. Voilà. Parler du fond, oui, je pense qu'au contraire, il y a un appétit pour parler du fond, mais des freins très, très forts qui ont été imposés par la présidence de la République, par Alexis Kohler, lorsqu'il était en poste, dont on m'a dit qu'il disait qu'il ne fallait absolument pas parler aux journalistes hors la présence d'un communicant. Je pense que cette difficulté d'accéder à des réponses, mais même parfois des réponses, même pas de recherche du scoop, c'est-à-dire juste de recherche de compréhension. Alors, j'aime pas le terme de pédagogie parce qu'il est repris et instrumentalisé, mais parfois c'est presque juste ça. Et en fait, même ça c'est difficile. Or, quand c'est flou, il y a un loup. Donc on essaye toujours d'avoir le plus de précision possible. Or, il est difficile d'accéder aux conseillers et il est encore plus difficile d'accéder aux conseillers depuis le Covid, depuis la pandémie. Parce que des briefings physiques qui permettaient une certaine fluidité et un certain accès informel pour poser des questions de base, auxquelles on peut répondre sans être enregistré. Enfin, vous allez comprendre, mais on peut répondre plus facilement. Aujourd'hui, beaucoup de ces briefings se font dans le cadre d'appels téléphoniques qui réunissent des centaines de personnes, centaines de journalistes, à distance, en distanciel. Sur le papier, on se dit c'est super, on peut suivre depuis la plage, c'est génial. Et puis n'importe qui, même à l'étranger, peut suivre ces briefings. Mais la grande limite pour nous, c'est que ces briefings-là sont devenus beaucoup moins intéressants, dans la mesure où, lorsque la parole est... Voilà, dispersé, accessible à n'importe qui, avec un numéro de téléphone et un code, en fait, les conseillers se brident énormément. Donc, c'est beaucoup, beaucoup moins intéressant et encore plus dur d'avoir accès à une information intéressante et pertinente. Déjà que c'est l'été, je pense, sous Macron. Ça l'est encore plus sous Macron post-pandémie. Et je pense que c'est un réel problème, et même pour lui, même dans sa communication politique, sans doute que ça lui porte préjudice. Bon, c'est pas mon problème, mais...
Alors, ça me fait penser à une anecdote, qui, on va dire, très éloignée en apparence, mais il y a des années de ça, il y a une vingtaine d'années, j'avais rencontré l'ancien directeur du monde diplomatique qui s'appelait Claude Julien dans les années 80. Je ne l'ai pas rencontré dans les années 80, mais en tout cas, il était directeur du monde diplomatique dans les 70 et 80, et il était l'ancien rédacteur en chef international du Monde dans les années 50-60. Donc, tu vois, ça nous ramène à une autre pratique et à une autre histoire. Mais donc, Claude Julien, qui était donc un grand monsieur du journalisme, m'avait expliqué, parce que je l'avais interviewé, qu'en tant que patron du service international du Monde, dans les années 60, Le Monde était une institution, encore plus qu'aujourd'hui, journal de référence et compagnie. Et il m'expliquait qu'il avait un contact direct, à l'époque, avec les conseillers de la Maison-Blanche, par simple coup de téléphone, les conseillers les plus stratégiques. J'ai plus les noms des conseillers, mais en gros, je me souviens très bien de la séquence, entre guillemets, ou plutôt du morceau d'histoire auquel, d'une certaine manière, il a participé journalistiquement. C'est-à-dire qu'il m'a expliqué, pendant la crise des fusées de Cuba, crise de Cuba, en 62, je crois, sous Kennedy, il pouvait avoir des débriefings off au téléphone, lui à Paris, avec des conseillers de la Maison-Blanche, sans aucune interférence d'un communicant.
Le rêve.
Voilà. Et alors, la leçon de Claude Julien, et ça c'est important aussi à faire comprendre aux gens, c'est que, bien évidemment, il y a tout cet écran de la communication qui est arrivé entre les journalistes et toutes les institutions, privées comme publiques. Tu parlais des PDG avant et du monde économique, c'est encore plus formaté et cadré d'une certaine manière. Donc, il y a toute cette communication qui est arrivée depuis 40 ans. Mais il y a aussi des pratiques journalistiques qui ont évolué. Et ce que me disait Claude Julien à l'époque, c'est qu'il me disait, oui, moi, je pouvais appeler directement le conseiller ou l'un des plus proches conseillers, même diplomatiques, de Kennedy. C'est un peu mythique comme histoire. Mais je n'allais jamais sortir une petite phrase ou dire « la Maison-Blanche m'a dit », mais c'était pour sa compréhension qui allait ensuite nourrir des papiers, voire apporter des informations sans qu'elles soient sourcées forcément Maison-Blanche, mais faire tout simplement son travail de journaliste. Et c'est vrai que ce rapport-là, aux informés de l'intérieur, c'est de plus en plus difficile de l'avoir vis-à-vis de n'importe quelle institution, Élysée ou pas Élysée. Je parlais de l'économie, mais moi, dans mon expérience, par exemple, sur l'institution judiciaire, par exemple, quand tu poses des questions au parquet aujourd'hui, et c'est quelque chose qui s'est aggravé depuis 2017, mais qui était déjà en germe avant 2017, en gros, c'est de plus en plus rare qu'on te réponde, en tout cas en temps et en heure, qu'on te réponde d'une manière précise ou en mise en contexte. Généralement, c'est pas de commentaires, on ne parle pas, on fait pas de off. Mais il y a quelques années, il y avait du off, y compris institutionnel. Aujourd'hui, il y en a quasiment plus. Voilà.
Ça te parle. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect assez macronien, je reviendrai dessus après, et l'aspect presque technique, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ils existent encore, ces briefings qui restent off. Et je sais que les communicants disent le off n'existe pas, mais il y a quand même des cadres dans lesquels il est assez respecté. Et il y a les briefings. Alors en anglais, on dit. Il y a le off et il y a le background. Background, on ne peut même pas dire d'où vient l'information. Donc, elle est censée irriguer nos papiers, ce qui peut être aussi une instrumentalisation.
C'est tout à fait.
Mais quand on le sait, qu'on en est conscient, voilà, on peut faire son shopping, entre guillemets, avec ces informations-là. Donc le background existe encore aujourd'hui. Le problème, c'est que il y en a deux, et il y a lié à la technique. C'est qu'aujourd'hui, vous faites du off, vous savez que potentiellement, vous pouvez être enregistré outer, entre guillemets, beaucoup plus facilement qu'à une certaine époque. Enfin, les enregistrements sur tous les téléphones, voilà. Donc, je pense qu'il y a une retenue qui est liée à ça. Et la deuxième raison, c'est que En réalité, les politiques ont beaucoup moins besoin des journalistes aujourd'hui. Mmh. Ils peuvent s'exprimer directement sur les réseaux sociaux, sans contradictoire, sans personne qui leur rappelle qu'ils se sont contredits, sans question, et directement dérouler leurs éléments de langage sur Insta ou sur X ou que sais-je. Et de ce fait, ils ont moins besoin peut-être d'avoir ces conversations informées avec les journalistes pour influer sur la teneur de la conversation. Bon, je pense que c'est pas vrai parce que, en réalité, quand bien même les médias sont très affaiblis par rapport à l'époque que tu décrivais, ils ont quand même un rôle prescripteur qui existe et ils sont encore très lus dans une certaine élite. Enfin bon, voilà. Donc en vrai, en réalité, si tu veux faire passer un message, t'as quand même besoin de le faire passer aux journalistes. Et c'est d'ailleurs, là, autour de Macron, ils s'en sont rendus compte avec le temps. La relation avec les médias a un peu évolué. Mais je pense que c'est lié à ça. C'est-à-dire que pourquoi s'embêter à faire du off un journaliste par journaliste au téléphone alors que tu peux diffuser quelque chose sur les réseaux de manière instantanée. Et sur le côté vraiment macronien, en fait, Emmanuel Macron, quand il arrive au pouvoir en 2017, toute sa pratique avec les journalistes, elle s'inscrit en miroir avec celle qui est celle de François Hollande, son prédécesseur, dont Emmanuel Macron a estimé que la relation très forte avec les journalistes, très de proximité réelle, bon, François Hollande était même en couple avec une journaliste, hein, Valérie Trierweiler, lu à nuit, puisqu'il y a eu un bouquin, un livre qui a été publié par deux journalistes d'investigation du Monde qui révèlent des citations de François Hollande sur, par exemple, des assassinats, ou, voilà, et où même sur Emmanuel Macron, on voit qu'il s'est un peu laissé gagner. Sa confiance a été trahie. Bref, cet accès des journalistes l'aurait empêché de se représenter. Donc Macron, il arrive, il veut faire le contraire. Son modèle, c'est Mitterrand. C'est le secret, on admire que ceux qu'on le connaît.
D'ailleurs,
mal.
D'ailleurs, il y a une anecdote mystère que tu relates sur... tu questionnes Védrine, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères Lionel Jospin, ancien secrétaire général de l'Élysée sous Mitterrand, d'ailleurs. Et il t'explique que Macron lui a posé des questions sur la période Mitterrand. Parce qu'il est fasciné par la période Mitterrand, en fait. Hein, Macron, il veut faire comme Mitterrand dans
la pratique du pouvoir.
Oui, oui. Ouais. Et il lui pose la question sur comment il faisait avec le secret. Enfin, voire même une question un peu intrusive. Je pense qu'il pense comme tu le notes, à Mazarine Pinjot, enfin la fille cachée de Mitterrand. Donc il pose ce genre de questions-là à Védrine, qui te relate ça.
Bah oui, en fait, au début, la présidence gaulo-mitterrandienne que Védrine, qui est un terme utilisé par Védrine, c'est quelque chose qui intéresse Emmanuel Macron parce qu'il se dit qu'il pourra susciter le respect qu'a suscité un Mitterrand en étant distant. Mais en fait, cette stratégie, elle s'effrite très, très vite parce que il doit aller très, très vite dans l'arène après les Gilets jaunes. Et voilà. Avec les réseaux sociaux, de toute façon, en fait, c'est très, très dur d'être distant, de ne pas prendre régulièrement la parole parce qu'on se laisse dépasser par tous les autres. Et parce qu'aussi, par goût, en fait, Emmanuel Macron aime s'exprimer, convaincre, il a l'impression qu'il peut, entre guillemets, retourner n'importe qui, séduire n'importe qui et l'acquérir à sa cause. Et donc, en fait, cette démarche-là de distance ne tient pas. Mais elle tient quand même avec les journalistes. On n'est pas non plus dans une relation comme, je pense à mon confrère de l'AFP qui couvrait François Hollande, qui s'appelle Hervé Asquin, qui a écrit un livre sur, lorsqu'il a quitté justement l'Élysée. Il raconte, lui, son mandat à l'Élysée. Ce qui me rappelle que je n'ai pas répondu à ta première question sur la durée de nos mandats. Je vais y répondre du coup. Bref. Hervé Asquin raconte que lui avait il allait dans le bureau de François Hollande pour discuter et puis parfois François Hollande leur demandait conseil comme relais de l'opinion.
Ah oui.
Et ça c'est-à-dire qu'en tout cas cette relation là très informelle telle qu'elle a existé sous François Hollande n'existe plus aujourd'hui. Sur la durée de nos mandats entre guillemets, ouais, c'est il y a pas vraiment de règles, mais ce qu'on dit souvent c'est que lorsqu'on couvre un sujet longtemps, enfin qu'on est un rubricard, quel que soit le sujet politique, au bout d'un moment, on est un peu trop proche de ses sources et on perd un peu la capacité à prendre du recul, à être objectif, dans le plus objectif possible, et à être critique. Et que du coup, c'est bien de changer tous les 4-5 ans. En général, on dit ça, c'est un peu au doigt mouillé, mais c'est vrai que vous voyez dans votre vie professionnelle, ça prend 3 ans en fait pour... pour bien maîtriser un sujet, souvent on dit ça, donc 3 ans de maîtrise, 2 ans de maîtrise totale. Et puis après, on se reconfronte à un nouveau secteur. Cela dit, Emmanuel Macron a tellement mis en fait des distances avec les journalistes que j'ai pas l'impression qu'on ait cet effet de trop de proximité à nos sources élyséennes, trop de proximité au président. Et en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de changements de Premier ministre, changements de pied, nouvelle élection, fait que c'est pas comme tous les secteurs. Je pense qu'il est peut-être plus... il n'y a pas vraiment cette lassitude-là au bout de 4-5 ans. Quoi.
Et tout à l'heure, je voyais une question passer, ça a été trop vite pour moi, mais qui demandait justement... Alors, c'est une question piège, qui demandait est-ce qu'il y avait un filtre de sélection, en gros, est-ce que l'Élysée choisit ses journalistes, entre guillemets, choisit, notamment du côté des agenciers et agencières. En gros, est-ce que, entre guillemets, il y a négociation, est-ce que ça se fait, est-ce que tu peux expliquer aux gens comment ça se fait, et tu parlais de rapport de force des médias, tu parlais de contre-pouvoir pour la salle de presse. Je revenais à Bloomberg, c'est quand même un très grand média international. J'imagine que ça te donne quand même, c'était l'objet de mes questions précédentes, mais ça te donne une force, toi, une protection, j'imagine.
Alors oui, sur le choix, alors on m'a posé cette question plusieurs fois. Non, l'Élysée ne choisit pas les journalistes qui sont accrédités, ce sont les rédactions qui choisissent.
Bien sûr,
mais c'est quand même une bonne question.
Oui, il faut expliquer comment ça se passe.
Il faut expliquer. Et puis, en fait, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, encore une fois, on me raconte ça, lui décide de... Pour les voyages, il souhaite choisir en fait quel correspondant des médias pourra venir dans l'avion ou venir en voyage. Par exemple, sur un voyage, en Algérie, choisir le spécialiste de l'Algérie. Pour un voyage dans une usine, choisir le spécialiste industrie, Et ce qui revient, en réalité, à demander aux rédactions, à imposer aux rédactions le choix du journaliste, puisque ce sera le choix du rubricard, qui se joindra au voyage. Et là, il y a les rédactions étaient vent debout, parce qu'elles ont très vite compris que ça voulait dire qu'il y aurait un choix de l'Élysée. Donc ça n'a pas été possible. Les rédactions ont résisté, et je pense que c'est pour le mieux. Et de fait, on travaille de toute façon en très fort lien avec les rubricards. Les journalistes politiques parlent au rubricard qui fait le journaliste, qui est journaliste énergie, et voilà. Donc ça pose pas problème de ce point de vue-là. Ton deuxième question, c'était sur le fait d'être média anglo-saxon. Et...
Ouais.
Oui, on n'est pas. Enfin, je suis pas. C'est à la fois bien et pas bien, parce que c'est à la fois une force et une faiblesse, je veux dire. C'est-à-dire que c'est une faiblesse au sens où Emmanuel Macron a moins d'intérêt, et ses conseillers ont plus intérêt à alimenter la presse française et donc à parler, à faire du off avec la presse française, qui va vraiment couvrir tous les enjeux et au jour le jour, et puis les petites, peut-être les petites phrases ou les bisbis politiques, parce que c'est normal, ce sont les électeurs, c'est ceux qui doivent convaincre en premier lieu. À la fois, c'est une force parce que je ne suis pas soumise à ces aléas-là et que je peux plus choisir mes sujets, prendre du recul et aller faire d'autres papiers. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas plus mal.
Alors, on va arriver à des éléments sur la diplomatie que tu décris dans le livre. Parce que, donc, comme tu as participé à nombreux voyages, tout à l'heure, tu disais que tu as un binôme aussi pour des raisons d'organisation et technique, parce que, en gros, tu ne peux pas couvrir tous les voyages présidentiels. Et également, à la fin, je te parlerai d'économie, mais je vais vous lire un extrait du livre. Donc là, pour le coup, tu parles de toi. et je crois que c'est pendant le tout début du conflit en Ukraine en 2022. Et donc, ça parle de toi, de ton engagement personnel dans ce métier. Donc, je vais lire ça. Donc, un soir, je pose un lapin, encore, à un être cher pour assister à l'une de ces réunions. J'ai l'impression que chaque minute est historique. Donc là, tu parles de la guerre en Ukraine. En fait, je suis aussi survolté que Macron. C'est quoi encore un briefing de l'Élysée sur la Russie? Non, ça, c'est ton interlocuteur. Oui, c'est la guerre, il faut que j'y aille, tu te rends pas compte. Ça, c'est ta réponse. L'être cher qui se trouve être américain soupire. Faut que tu redescendes. Tu crois vraiment que c'est Macron qui a les clés du camion, là? c'est Biden qui envoie des armes à l'Ukraine, non ? Et je rétorque en toute mauvaise foi, tu ne peux pas comprendre, toi. Bon, j'ai trouvé ça amusant, cet échange, parce que ça me fait parfois penser à moi sur certains sujets, même si je ne suis pas agencier. C'est-à-dire, voilà, quand tu es journaliste, tu es aussi journaliste parce que tu as envie de découvrir ce qui est en train de se passer.
Oui, on a des junkies.
et donc, tu as un rapport... Enfin, parfois, ça n'arrive pas, mais tu as un rapport quand même. Tu as envie de savoir ce qui se passe, de savoir ce qui se passe dans les coulisses, de ce qui se passe en temps réel, d'avoir des informations avant les autres. Tu as une excitation, finalement. Enfin, tu as ce jeu-là. Mais justement, ton interlocuteur te fait redescendre, il te le dit. Il faut que tu redescendes.
Il a raison.
Voilà. Parce que cette excitation peut amener à des biais, à une mauvaise compréhension et autres. Alors, je te laisse parler de l'extrait.
Oui, parce que là, on est sur... je crois que ça, cette scène, elle intervient quelques jours après l'invasion de 2022 de l'Ukraine, sachant que quelques jours avant cette invasion, on se rend avec le président de la République à Moscou, à Kiev et ensuite à Berlin. Et à Moscou, donc, le président de la République rencontre Vladimir Poutine. Et là, on voit cette image que vous avez peut-être gardée dans votre mémoire rétinienne avec la grande table qui sépare Poutine de Macron. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, Macron, le président, se pose comme le dernier rempart entre cette guerre qui arrive. Vraiment, c'est la personne qui peut-être pourra convaincre Poutine de ne pas envahir l'Ukraine. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit.
C'est le récit qui est fourni.
Et c'est le récit, évidemment, qui est mis en scène lorsqu'un président se rend en Ukraine et à Moscou. Mais évidemment que c'est, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que lui, c'est son ambition. C'est qu'il se dit, bon, après avoir relativisé pendant des mois les données du renseignement américain qui suggéraient une invasion imminente ou planifiée, bon là, il y va et on se dit que c'est lui qui peut arrêter la guerre. Et on peut se laisser intoxiquer, c'est ça le risque. C'est-à-dire que ce soir-là, en fait, l'Élysée nous annonce que Macron a obtenu de Poutine un acquiescement. C'est-à-dire qu'il aurait accepté une désescalade et de retirer les troupes de Biélorussie. Et en fait, à ce moment-là, dans l'excitation, l'abîme qui est devant nous, on se dit peut-être qu'effectivement, le président de la République a arrêté une guerre imminente. Mais en fait, non, très très rapidement, le Kremlin dément. Il faut tout prendre avec... ça, c'est l'illustration pour moi qu'il faut tout prendre avec des pincettes et tout sourcé aussi. C'est-à-dire que si on vous dit Macron a convaincu Poutine de ne pas envahir l'Ukraine, il va falloir préciser qui dit ça. Est-ce que c'est Poutine qui dit ça ou est-ce que c'est Macron ? Parce que si c'est Macron qui dit ça, effectivement, peut-être qu'il croit un peu trop en ce qu'il a pu obtenir et négocier de Poutine.
Alors, sur ce cas précis, si je me souviens bien, le lundi matin, parce que je crois que c'est un lundi matin que ça se passe, il y a une dépêche AFP qui relaie, on va dire, les éléments de langage français. Et en fait, deux heures après, en dehors des offs que vous avez pu avoir avec la représentation diplomatique russe, enfin, tu l'expliques d'ailleurs, que tu fais ton boulot, tu essayes d'avoir des informations du côté de la partie russe, et tu dis, ah ben non, la partie russe ne nous dit pas ce que l'Élysée nous dit, donc il y a un hiatus, on va dire, à minima. Et puis finalement, après la dépêche AFP, enfin de l'extérieur, c'est comme ça qu'on le voit, deux ou à trois heures après, il y a un premier signal extrêmement négatif de la part du Kremlin.
Peskov qui dit non, on n'a jamais dit ça.
Voilà, c'est ça. Et puis en fait, finalement, je crois que c'est le soir même ou le lendemain, la guerre est déclarée. Enfin, c'est une séquence assez terrible pendant 48 heures où ça remet les choses à leur place entre d'un côté la communication diplomatique de l'Élysée et l'histoire qui est en train de se faire, c'est-à-dire une guerre qui démarre. Donc,
c'est un peu une stratégie du fait accompli aussi qu'il a sans doute tenté. C'est-à-dire que j'imagine que Poutine lui a effectivement acquiescé. J'étais pas dans la, pour le coup, j'étais pas dans la salle et il y avait vraiment personne. Hein. Ils étaient en tête à tête, mais j'imagine que Poutine lui a effectivement laissé entendre qu'il lui a donné. Qu'il allait se retirer ou en tout cas mettre en pause cette invasion. Mais en fait, le fait de l'annoncer très rapidement Et c'est une tentative d'en faire un fait accompli et de le forcer, entre guillemets. Enfin, c'est un genre de stratégie du forceur, pour le dire
de manière triviale. T'emploies cette...
Oui, j'essaie de trouver des...
Ouais. Tu dis, Macron est un peu forceur.
Sur d'autres sujets, ouais. Ouais. Là, c'est un sujet quand même assez particulier, ouais. Parce qu'on peut se dire que Poutine est dans la manipulation assez versée. Donc, du coup, effectivement, ça ne suffit pas. Macron qui dit ça, l'Élysée qui dit ça, ça ne suffit pas pour dire « Ah, il n'y aura pas d'invasion de l'Ukraine ». Macron pense avoir obtenu ça de Poutine. Ok, maintenant il faut aller voir directement avec le Kremlin et vérifier quel est leur son de cloche à eux. Et très très rapidement, comme tu le disais, on se rend compte que non. Mais ça c'est juste le job des journalistes, d'aller demander à tout le monde d'aller trianguler dans la mesure du possible.
Et recouper.
Recouper,
quand c'est possible.
Oui, pardon, ouais. Recouper, pas
trianguler. Non, mais tu peux trianguler. Fais attention, c'est un terme de communicant.
Absolument.
Mais. Alors, sur la partie diplomatique, parce que donc, tu évoques, parce que l'actualité est riche, hein, parce que tu as eu la guerre en Ukraine, et puis après, toutes les crises qui se sont enchaînées, toutes les crises internationales, Trump, tu parles de Trump et de Macron hein, dans le livre, tu parles également de ses relations avec Xi Jinping, la Chine, du Golfe, enfin, de la question israélo-palestinienne également, de Netanyahou. Donc, tu évoques quand même... plein de coulisses de ces différents déplacements diplomatiques, même parfois des déplacements diplomatiques, on va dire, assez chauds en termes d'actualité. Et tu reviens sur un élément, on va dire, qui a extrêmement été peu traité par les médias français, je trouve, enfin, moi je l'ai écrit dans mes livres, mais ça n'a pas... personne ne l'a véritablement analysé sur les plateaux télé ou même dans les papiers. Toi, travaillant pour une agence américaine, c'était un sujet qui était important pour toi. C'est-à-dire, tu expliques par A plus B, avec des éléments extrêmement précis, que les relations avec Biden étaient assez mauvaises, entre Macron et Biden, que Biden, on va dire, battait à froid Macron, le mettait à distance, ne lui parlait pas beaucoup, voire même l'a mis devant plusieurs faits accomplis importants. Alors, tu parles de l'OCUS, on reviendra
Inflation,
peut-être
la
question des sous-marins français vendus à l'Australie. Finalement, c'est les Américains qui cassent le marché, on va dire, et qui mettent leur sous-marin à la place des sous-marin français. Donc, c'est quand même plein de faits accomplis que tout le monde a oublié, d'ailleurs, hein, dans le discours, parce qu'on dit que Trump, c'est le gros méchant par rapport à Biden qui aurait été extrêmement pro-européen. Mais là, on voit que les choses sont parfois plus complexes. Mais donc, tu t'expliques quand même par A plus B que les relations entre Biden et Macron étaient en fait relativement mauvaises ou inexistantes, mais ça revient à peu près au même. Que les relations avec Trump et Macron ne sont pas forcément bonnes, même si parfois tu es un peu gentil, je dirais, là, pour le coup, mais t'expliques quand même que leurs relations sont bien complexes, voilà, pour ne pas dire des mots plus forts. Mais tu dis que, finalement, Macron a comme préférence Trump plutôt que Biden. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Alors, les relations avec Biden sont compliquées parce qu'il est difficile pour Emmanuel Macron de le joindre directement, tandis qu'il a un accès direct à Trump, qu'il met d'ailleurs en scène parfois, on le voit dans un documentaire d'un confrère de France Télé où voilà, il se met à appeler Trump devant les autres chefs d'État et voilà, il le fait plusieurs fois. Je vais tout de suite mettre un bémol là-dessus en fait.
Ouais.
Tout le monde à Washington a le numéro de Trump et il y a beaucoup même de journalistes qui l'appellent là en ce moment pour lui poser des questions sur Hormuz et obtenir des déclarations contradictoires. Donc bon, cet accès dont Macron
lui-même en scène.
En réalité, il n'est pas si exclusif que ça. Bon, mais en tout cas, Macron communique directement avec Trump. Trump lui répond, il lui s'envoie des messages. Ils ont une relation complexe, comme tu le disais. Moi, je l'ai décrit comme sont les meilleurs frenemies, c'est-à-dire, c'est une contraction du mot friend et enemy. Ils se toisent en permanence, mais quelque part, et c'est là que tu disais que j'étais gentille, je pense. Je pense quelque part, Trump le respecte parce qu'il respecte le leader français, cette iconographie de l'homme fort dont parfois Macron joue. Bon, alors, avec Biden, c'était compliqué. Biden a mis en œuvre l'Inflation Reduction Act qui, comme ce nom ne l'indique pas, en fait, propose propose des, en gros des subsides aux entreprises qui feraient, qui décarboneraient leur industrie. Tout ça, ça a été fait sans se concerter avec l'Union européenne. Donc les Européens étaient, dont Macron, hyper fâchés parce que ça faisait une concurrence qu'ils n'attendaient pas de la part de l'industrie américaine. Biden a signé un accord avec l'Australie et le Royaume-Uni pour un accord de défense qui supposait la fourniture de sous-marins à propulsion nucléaire, ce qui a fait tomber un contrat français de fourniture de sous-marins à l'Australie qui devait être, je cite Le Drian à l'époque, le ministre de l'époque, le contrat du siècle. Bon, alors, tout le monde était très déçu par ce ça, et les États-Unis n'ont pas informé la France dans le process, mais comme le disait un ancien diplomate américain, en fait, les États-Unis font ce qu'ils font, et puis après, tant pis, quoi, on s'excuse, et voilà. Il y a eu des scènes de réconciliation entre Macron et Biden dont j'ai été témoin à Rome, en marge d'un... Je ne sais plus maintenant, les G7, les G20 se mélangent dans ma tête, mais je crois que c'est un G7, où en fait, Biden met par écrit qu'il soutiendra la France au Sahel et l'Europe de la défense, quelque chose comme ça. Et alors, ils sont très tactiles et on assiste à une scène de réconciliation. Mais la vérité, c'est qu'en fait, quand Trump arrive au pouvoir pour son second mandat, autour de Macron, il y a un réel espoir que la relation sera meilleure avec Trump parce que plus simple et dénuée de tous les conseillers qui entourent Biden pour diverses raisons et qui font que Biden est difficile à joindre pour le président de la République. Et aussi, ils pensent qu'il y aura, et ils ne sont pas les seuls, hein, il y a aussi des diplomates qui pensent que Trump va rajouter dans le jeu un élément perturbateur dans le jeu de la guerre en Ukraine et qui fait qu'il y aura... peut-être possibilité de reparler à Poutine et d'aboutir à la paix. Parce que on va sortir du statu quo, en gros. Et ça, de l'extérieur, je pense que ça peut être assez surprenant de se dire qu'il y a un espoir quand Trump arrive au pouvoir. Finalement, Trump, je pense, après quelques mois, cet espoir est quand même déçu. Il avait dit qu'il ferait la paix en Ukraine en 24 heures. Ça n'est pas arrivé. Et puis, il y a d'autres guerres qui sont suivies. Donc, voilà, encore une fois... espoir déçu et pas sur le côté visionnaire, loin de moi de dire qu'il est possible de prévoir ce que fait Trump, mais bon, pour le coup, il n'y a pas eu de vision de ce qu'il allait faire, quand bien même Macron connaissait très bien Trump, parce qu'ils ont été présidents en même temps pendant leur premier mandat respectif. Cette relation, elle a continué bon an, mal an. En fait, c'est une relation de... Macron essaye de quand même continuer à s'imposer face à Trump. Il l'a déjà remis en place quand on était à Washington. À un moment, Trump dit de toute façon, l'aide européenne à l'Ukraine, ce ne sont que des prêts. Macron le corrige, lui dit non. Ce sont des aides directes aujourd'hui. Bon, quand Trump le refait, il ne le corrige pas la deuxième fois. Mais voilà, il lui tient quand même tête de temps en temps avec ses lunettes là, à Davos. Bon, c'est un gros coup de com', mais Macron se présente comme le leader, entre guillemets, libéral, au sens américain du terme.
Aux yeux des Américains, d'ailleurs.
Aux yeux des Américains. Ce qui est assez paradoxal quand on sait qu'en fait, il a plutôt une bonne relation avec Trump.
Ouais.
Mais c'est un peu la seule stratégie tenable pour les Européens, les Américains étant tellement, enfin les États-Unis étant tellement puissants, ouais. Étant capables de switcher, d'avoir un switch-off sur des équipements en Ukraine, il n'y a pas beaucoup d'autres stratégies possibles que essayer de cultiver l'indépendance tout en gardant les relations avec les États-Unis les meilleures possibles.
Et alors tu chroniques aussi très bien sur ces questions-là diplomatiques et géopolitiques. Il y a un chapitre qui s'appelle Séduire le diable, dont tu parles de Poutine notamment. C'est quand même que, et tu le notes aussi très factuellement, et ça aussi c'est relativement peu réécrit ou écrit ou souligné ou commenté, mais sur le dossier ukrainien, Macron, il est passé d'une position à une autre, enfin à 180 degrés. Il était dans la conciliation, dans le dialogue avec Poutine, et il est devenu quasiment l'un des plus va-t-en-guerre en Europe. Alors tu le dis quand même très lucidement là pour le coup, parce que tu dis en gros, ça, il peut être très 20 ans guerre avec Zelensky. Finalement, ça n'aura pas forcément beaucoup de conséquences parce que finalement, ceux qui tiennent encore le manche, c'est encore les États-Unis. Je résume un peu la séquence que tu explicites dans le livre, mais c'est un peu ça quand même. Donc, tu mets de la distance là pour le coup avec le jeu de communication diplomatique de Macron. Mais comment est-ce que on vous a expliqué, parce que tu le dis un peu, ou généralement je l'entends par les confrères, le président s'est aperçu que Poutine, finalement, l'avait roulé dans la farine, qu'il pouvait pas, ce n'était pas constructif, que finalement, le dialogue ne servait à rien, donc on a changé de stratégie. Est-ce que c'était vraiment opportuniste ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose, dans ce que tu sais qu'est-ce qui fait que Macron a fait ce 180 degrés sur l'Ukraine, que finalement, en France, on commente finalement assez peu, mais qui est quand même extrêmement important.
Il me semble que ce 180 degrés que tu évoques, c'est bien à l'été 2023, quand à Bratislava, à la conférence de GlobeSec, il dit, l'Ukraine dans l'OTAN, on va
se
venir.
Il y a cet élément, on va dire, il y a cette acmé-là que tu rappelles. Ça avait, de mon point de vue, un peu commencé plus tôt. En gros, premier semestre, la bascule, elle se fait au premier semestre 2023, en tout cas dans ce que j'en sais.
Oui, et puis le dialogue avec Poutine se tarait complètement. Ouais.
Tu
sais, par définition, il est impossible d'être dans la tête d'Emmanuel Macron. J'aimerais, mais ce n'est pas le cas, je dois l'avouer. Donc, sur la base de ce que je sais, c'est surtout à la fois une stratégie, je dirais, de réalpolitique et pragmatique, et aussi ça vient des rapports de force parmi ses conseillers. Ce qu'on m'a dit, c'est que donc ce discours-là, qui est présenté comme un discours majeur d'inflexion de la politique d'Emmanuel Macron envers l'Ukraine, à Bratislava, en fait, on m'a dit que Catherine Colonna, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, ne voyait pas ça d'un très bon œil. Et donc, il y a certains conseillers dans la cellule diplomatique du président qui ont poussé pour que cette ligne soit celle qui soit adoptée. Il n'y avait pas de consensus là-dessus. Et je pense qu'ils l'ont emporté parce qu'en fait, au bout d'un moment, la position de « voilà, on va parler à Poutine ». Et puis d'ailleurs, Emmanuel Macron, en 2017, a déroulé le tapis rouge à Poutine en l'accueillant à la fois au fort de Briançon, puis l'année d'après à Versailles. Donc c'était une stratégie d'essayer de séduire Vladimir Poutine en se disant que on pourrait le raccrocher dans le jeu européen. Ça n'a pas fonctionné. Les Ukrainiens sont outrés de ce dialogue que tente de lancer toujours Emmanuel Macron. Ils sont outrés qu'il ait dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie à un moment où l'enjeu était plutôt de ne pas humilier l'Ukraine. Et cette position-là vis-à-vis des partenaires, qu'il s'agisse des États, des Pays-Bas, des pays de l'Est, n'est plus tenable. Et quand on vient faire un discours à Bratislava, c'est un peu compliqué de tenir une position, la position qu'elle était, celle d'Emmanuel Macron. Donc c'est là qu'il prend cette inflexion. Mais comme tu le rappelais, il ne faut pas non plus être dupe, parce que si ce jour-là, il ne l'a pas dit comme ça, mais s'il avait dit « bon voilà, on veut que l'Ukraine entre dans l'OTAN le plus rapidement possible », la réalité est que ce n'est pas une décision qui est prise par la France, qu'il y a à ce moment-là des réticences américaines et allemandes, puisqu'en fait, entrer dans l'OTAN, ça veut dire... il y a
c'est l'alliance nucléaire, l'article 5.
Les conséquences sont énormes. Et donc, en fait, ça ne entre guillemets, coûte pas grand-chose à la France de dire ça.
Mais en dehors de l'opportunité, de l'évolution du contexte, à l'Élysée, on ne vous explique pas autre chose. Sur cette inflexion-là, tu nous as expliqué les différences de vue au sein de la cellule diplomatique ou pas. Je te pose la question parce que, clairement, en plus, c'est un sujet qui m'a intéressé, sur lequel j'ai enquêté, mais je sais maintenant, c'est très clair que début 2023, en coulisses en tout cas, ça commence à être une inflexion assez forte vis-à-vis de l'Ukraine, mais que dans le même temps, Macron se rapproche très fortement des Anglais sur le dossier ukrainien. Et donc, en fait, Macron, il s'aligne sur les Anglais, principalement sur le dossier ukrainien, même davantage qu'il ne s'aligne sur les Américains, Biden ou Trump. Alors, je te poserai la question comme ça, parce que c'est peut-être difficile pour toi, justement, d'avoir à la fois le nez dans le guidon, et puis tu dis très lucidement dans le livre, à un moment donné, on a quand même que le masque, on n'a pas accès à toutes les coulisses et à toutes ces informations derrière. Mais est-ce que du côté, éditorialement, du côté de Bloomberg, du côté des Américains, il y a une différence de vue, même avant Trump, sur le dossier ukrainien entre les Anglais et les Américains. Parce qu'en fait, Macron, il se rapproche des Anglais, principalement. Et de ce que je sais, la position des Anglais sur le dossier ukrainien, même avant Trump, c'est-à-dire sous Biden, est relativement différente avec la position de la Maison-Blanche. Donc, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as, en tout cas, tu as perçu des interrogations du côté américain sur ce mouvement-là entre les Français et les Anglais?
Ouais, alors, je sais plus à quel moment on se situe et qui est Premier ministre en Angleterre, mais il y a un moment où il y a un rapprochement effectivement avec les Anglais et qui à peu près a perduré, sachant que les Anglais, enfin, le Royaume-Uni est très, depuis le début, extrêmement. Vocal, enfin, ouais. C'est un anglicisme, mais oui, voilà, s'engage sur ce sujet très fort.
Et soutient Zelensky, enfin, est très guerrier, on va dire, contre Poutine et la politique poutinienne, effectivement.
Mais c'est pas du tout. Alors,
ce qui n'était pas du tout le cas de Macron en 2022.
Ce qui n'était pas le cas de Macron en 2022, non, bah, il était plutôt sur la ligne de l'exceptionnalisme français, un petit peu ce côté, voilà, on a une relation spéciale. Avec la Russie. On est capable de. On a aussi ce dialogue sur le nucléaire depuis de longues dates. Voilà, donc cette ligne-là est peu à peu abandonnée. Et sur le masque, il y a en fait une différence aussi entre. Oui, effectivement, ce qu'on nous dit, c'est plutôt une évolution, voilà, du président. On nous rappelle souvent, c'est ce qui s'apparente quand même à des éléments de langage, qui serait qu'en fait, il a poussé Poutine au bout jusqu'à pouvoir dire qu'en fait, il a tout tenté et que finalement, la responsabilité échoue à Poutine, ce qui est peut-être vrai, mais c'est quand même assez simplifié. Enfin, c'est... Voilà. Après...
Sur les Anglais et les Américains.
Sur les Anglais et les Américains, sur la dissension entre les deux, moi, j'ai pas de... Ça me rappelle pas. Enfin, tu vois, faudrait que je regarde, je me plonge dans les archives de l'époque. Mais sur le côté dissensus, ou en tout cas les jeux entre le ministère des Affaires étrangères et dans la cellule diplomatique, ça, c'est des choses, évidemment, qui viennent de sources et pas de la parole. C'est pas quelque chose qui nous est dit. Tu vois, tu disais, le masque et les éléments de langage, ça s'en fait pas partie. Enfin, voilà, il faut faire la part des choses.
C'est ta compréhension de ce qui se trame en coulisses et des différences de vues qui sont autour du président. Mmh. Tu relates un épisode important qui avait suscité la polémique au sujet d'un « off », entre guillemets, sorti par la presse française, je crois, dans mon souvenir, lors d'un conseil des ministres, où Macron a un commentaire sur Israël et sur Benjamin Netanyahou, où il explique, c'est le propos relaté, qu'il faut que Netanyahou se rappelle que son pays a été créé par l'ONU. Bon, d'ailleurs, c'est un peu plus complexe que ça, mais enfin bon. Et donc, cette phrase-là est sortie, je crois, par le Canard Enchaîné et puis par d'autres journaux.
Compris par l'AFP, voilà, très sérieuse agence.
Alors, ça, je ne savais pas, j'avais oublié, y compris par l'AFP. Donc, ça a été sourcé manifestement par des ministres présents au Conseil des ministres, enfin, j'imagine. Et donc ça a provoqué une colère de Macron, et tu l'expliques bien, tu expliques que le président Macron ne supporte pas qu'on rapporte des propos qu'il n'a pas tenus, entre guillemets, d'une manière enregistrée, comme si c'était Charles de Gaulle à la conférence de presse avec l'ORTF, quoi. Et donc tu dis, mais comment... Et c'est quand même une histoire qui a été assez loin, je crois, enfin, dans le rapport entre les services de presse de l'Élysée et les journalistes. Voilà, en gros, Macron ne supporte pas qu'on sorte des propos rapportés, même recoupés. Voilà.
Oui, je décris cette scène, mais sans vouloir trop déflorer et tout vous raconter dans les détails, parce que sinon je vais entrer dans un tunnel. Mais en gros, on est là en conférence de presse après un conseil européen, et en général, le président de la République commence par parler, faire un petit bilan de ce qui a été dit en Conseil européen, des priorités diplomatiques, voilà. Et au lieu de quoi, il dit « je vais faire autre chose, là », et puis prend son air, je le vois, je me dis « oulala », il prend son air courroucé et très, très dur. Et il nous fait... En plus, moi, je suis en bas, donc il est en surplomb. Enfin, je suis vraiment devant lui, donc il est en surplomb face à moi. Et puis il commence à dire « voilà, il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui sont inacceptables, je voudrais le rappeler aujourd'hui. » Et puis, en fait, il fait la leçon en disant que voilà, il y a des propos qui lui ont été attribués, n'auraient pas dû être rapportés. Et il a une formule, je ne sais plus exactement qu'elle est dans le livre, mais je ne veux pas travestir son propos, mais il dit quelque chose comme oui, de toute façon, si je ne l'ai pas dit en public, je ne l'ai pas dit. Enfin, référez-vous à ce que je dis en public. Et ça, c'est à la fois, enfin, soit naïf, soit de mauvaise foi, parce que. Bon, un conseil des ministres, déjà, ce n'est pas une chambre à coucher. Enfin, on n'a pas volé, enfin, les journalistes n'ont pas volé des citations qui auraient été prononcées dans un cadre intime et privé. Voilà. Ensuite, son conseil des ministres, ayant perdu la majorité, la majorité relative même à l'Assemblée nationale, son conseil des ministres n'est plus totalement à sa main comme il l'était par le passé. Et donc, de fait, il y a parfois des fuites. Les ministres s'autonomisent un peu et on revient un petit peu à une situation normale telle qu'elle était. Voilà. Mais moi, je trouve que dans une démocratie, ça me... Effectivement, là, en l'occurrence, le contexte, la phrase qui est reprise, la responsabilité à ceux qui reprennent la phrase et qui l'instrumentalisent, voilà, de rendre des comptes. Mais que des phrases rapportées, des propos prononcés dans un cadre de conseil des ministres soient rapportées... classique, quoi. Enfin, c'est pas ça, que ça donne lieu à une telle remontrance de la part du président en conférence de presse en marge d'un sommet européen à Bruxelles. J'ai trouvé ça assez impressionnant, ouais.
Et très révélateur de son rapport à la presse.
Ben, simplement, je pense qu'il aimerait tenir le stylo, mais ça marche pas. Tenir le,
oui.
diriger nos doigts sur le clavier.
Il est dans le contrôle, donc il supporte pas de perdre le contrôle. Ça c'est Macron et son esprit. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait être dans la tête d'Emmanuel Macron, quelle horrible idée. Donc,
Ouais, mais vous restez dans notre propre tête à nous.
Voilà. Parmi les dernières questions, comme donc agence d'information économique, Bloomberg, donc tu évoques pas mal les relations entre Macron et les responsables économiques, y compris internationaux, parce que donc à travers les différents voyages que tu fais, notamment aux États-Unis avec le président, il rencontre différents responsables économiques, des grands patrons et compagnie. Tu t'expliques un épisode assez très révélateur aussi sur il y a la dissolution qui est décidée et tout d'un coup il y a une sorte de un début de panique du côté des marchés financiers mais finalement t'expliques que la rencontre avec les patrons aux États-Unis se passe bien parce que finalement ils sont très contents du travail fait par Emmanuel Macron, on va dire ça comme ça, et tu relates un épisode que j'ai, on va dire, oublié. Ça, je crois que c'est quand il va justement à l'ONU pour reconnaître l'État palestinien en septembre 2024, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça. À cette occasion-là, il reçoit un prix d'un think tank américain. Je ne sais plus lequel, mais... Et tu dis... Ça, j'avais complètement zappé, ou j'avais peut-être... Je ne savais pas. Tu dis qu'il choisit pour lui remettre ce prix-là. Prix d'ailleurs qui a été assez peu commenté par les médias français, dans mon souvenir. Il choisit le patron de BlackRock, donc l'un des plus gros fonds d'investissement américains du monde, qui fait un peu la pluie et le beau temps sur les cours de bourse, y compris des groupes français. Donc ce mastodonte de l'investissement américain, et il choisit donc que ça soit Larry Fink qui lui adresse ce prix.
Oui, oui. À l'époque, donc moi, je suis dans la salle et j'écris un article dessus. Enfin, ouais. Voilà.
Ah oui, en plus, ça intéresse le public de Bloomberg.
Larry Fink, voilà. C'est un personnage quand même intéressant qu'on documente pas mal. Mais j'étais moi-même et je c'est du contexte, voilà, que j'exprime. Mais j'étais moi-même étonnée qu'il fasse ce choix parce que, en fait, à l'époque, je me suis dit que ça allait sans doute être relevé par des médias de gauche en France parce qu'il y avait eu cette histoire de dégradation d'activistes pour environnement et peut-être même d'autres dégradations, je ne sais plus, mais au siège de BlackRock.
Principal actionnaire Total, rappelle, entre autres.
Absolument. Et donc, c'était un choix
général aussi.
Qui voulait dire qu'en fait, en tout cas, il ne se préoccupait pas des potentielles réactions en France de ce point de vue-là. Mais qu'il avait une excellente relation avec Larry Fink, dont ils ont témoigné. Il a vraiment été très, très généreux en compliments. Ils ont une très bonne relation. Et Macron assume cette relation avec le secteur de la finance new-yorkais qu'il est allé voir à cette occasion-là. Je crois que c'était... Mais peut-être que je perds la boule, mais peut-être... Il me semble que c'était en septembre 2025.
Ah c'est moi, alors.
c'est à force de voyage.
C'est moi qui perds la boule. Oui, tu as peut-être raison, c'est peut-être 2025. Tu as raison, c'était 2025.
Je suis sûr que les gens vérifient.
Le temps se comprime parfois. Mais alors justement, donc tu dis, il en avait un peu rien à faire, en gros, de l'image donnée par cette réception, ce prix. Tu termines le livre avec une pirouette sur, je crois, tu évoques quelque chose que j'avais évoqué il y a longtemps, c'est-à-dire il y a 4 ans maintenant, mais que les journalistes politiques maintenant se passent la balle sur le sujet. Donc, quel est l'avenir d'Emmanuel Macron d'après toi ?
Oui, c'est vrai. Et ça, c'est la question que donc, tout le monde se pose.
Et donc, ce que j'avais expliqué il y a déjà 4 ans, c'est qu'en fait, il pensait revenir en politique, notamment pour 2032, que c'était son objectif. La semaine dernière, il a un peu brouillé les pistes, je crois, parce qu'il a expliqué qu'il allait arrêter la politique. Mais enfin, la politique, combien de temps après son mandat ? Enfin, son deuxième mandat. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Et également, tu évoques à un moment donné le fait que ses conseillers glosent ou spéculent sur le fait qu'il serait embauché par LVMH après son mandat. Voilà, est-ce qu'il vous donne, entre guillemets, journaliste accrédité à l'Élysée, est-ce qu'il vous donne des indices de ce qu'il compte faire après 2027 ?
Alors, c'est une question tellement importante qu'il y a quasiment tout un chapitre, tout un passage consacré à ça. Mais ouais. Effectivement, il y a alors cet aspect 2032 que tu as évoqué, que tu as documenté. En fait, l'année dernière, Emmanuel Macron dit lors d'une réunion des jeunes avec Macron, enfin, maintenant on dit Jeunes en Marche. Les Jeunes en Marche, il dit voilà, je veux compter sur vous pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, j'aurai besoin de vous.
Ouais.
Ce qui est largement interprété comme il sera encore en politique dans 10 ans. Et un de ses fidèles.
C'était une manière de remettre à sa place, d'ailleurs, Gabriel Attal.
Absolument. Et un de ses fidèles, le sénateur de la Côte d'Or, François Patria, dit qu'il lancera le hashtag Macron 2032. Bon, tout ça pour dire que c'est assez assumé autour dans l'entourage d'Emmanuel Macron de dire qu'on dit ça. Bien sûr qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va faire en 2032, mais ça permet de le garder toujours au centre du jeu. La France est un régime, la Ve République est tellement tournée, obsédée par ce président, cette position de président, que si on n'est pas candidat à une présidentielle, il est difficile d'exister. Donc le fait qu'on le voit comme un potentiel candidat en 2032 lui permet de garder les projecteurs sur lui, en fait. Et c'est vrai qu'il aura que, je crois, 54 ans. Donc ce n'est pas totalement exclu qu'il y ait un retour, puisqu'il peut constitutionnellement se représenter après une vacance de 5 ans. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire entre-temps s'il se représente ? Du coup, la réponse à ta question dépend de ce qu'il va faire. S'il veut rester en politique, revenir en 2032, par exemple, travailler pour LVMH, ce sera peut-être pas la
pour la Riffink.
Ou pour la Riffink. Mais je ne sais pas. Enfin, peut-être, en fait. Finalement, il a quand même accédé au pouvoir en ayant été banquier. D'investissement pendant 2 ans. Pardonne-moi, j'ai plus de voix. Donc tout ça pour dire que le choix va dépendre de ce qu'il veut faire après. Il y a pas mal de gens autour de lui, lorsqu'on lui pose la question, qui disent il prendra un mandat européen. J'ai même entendu qu'il sera président de l'Europe, qui est un poste qui n'existe pas, mais qui pourrait évoquer la présidence de la Commission européenne. Bon, peut-être, mais il faudrait déjà que convaincre les chefs d'État européens de laisser un président français qui prend de la place, qui parle beaucoup, de les représenter. C'est pas exactement la pratique. On lui préfère en général nommer quelqu'un qui ne prend pas trop de place, justement, pour garder eux-mêmes leur préséance et leur pouvoir. Donc la question va dépendre de ça. C'est vrai que l'autre jour à Chypre, après la question d'un étudiant, il a répondu qui lui demandait comment il était arrivé. Il est un peu au pouvoir, il a un peu dévié, il a parlé de ce qu'il avait fait avant, après, il a dit je faisais pas de politique avant, j'en ferai pas après, mais en fait ça veut pas dire grand chose vraiment à ce qu'il faisait pas de politique avant, enfin, en étant co-rapporteur de la commission Attali sous Nicolas Sarkozy, il faisait peut-être un petit peu de politique quand même, voilà. Donc, et après quoi,
c'est
ça veut rien dire
pour lui de susciter le suspense, hein,
mais
d'ailleurs.
Bien sûr, c'est une manière encore une fois de garder l'attention sur lui, qu'il ne s'inquiète pas, on gardera toute l'attention sur lui jusqu'à la fin de son mandat et au-delà. Voilà.
Bon, on va peut-être arrêter là. Tu vois, c'est passé vite finalement.
Oui, finalement, j'appréhendais un petit peu, mais ça va.
C'est bon, on te remercie beaucoup pour tous tes efforts d'explication ou de pédagogie, même si tu disais ne pas aimer le terme galvaudé. Tu as raison, c'est un terme totalement galvaudé. On te remercie pour toutes les précisions que tu as apportées sur ton travail d'agencière, sur ton livre également, et sur le rapport que tu as depuis maintenant 7 ans bientôt avec le principal sujet de tes dépêches, c'est-à-dire le président Macron. Donc voilà, en tout cas, tu notes quand même qu'il a parfois plus d'énergie que vous-même, donc, enfin vous-même, les journalistes ou l'entourage.
Après, je ne vis pas dans un palais, malheureusement. Voilà.
Donc... oui, donc ça explique beaucoup de choses.
Mais il est plein d'énergie, ça, oui, enfin, indéniablement, comme beaucoup de leaders politiques.
Et donc effectivement, tu disais que tu étais d'abord journaliste, et donc c'est vrai que c'est peu de moyens par rapport à tout un entourage et à toute une machine dont on a un peu mieux compris les tenants et les aboutissants, j'espère, ce soir. Voilà.
Merci pour toutes vos questions. Merci à toi et j'espère que ça vous aura donné envie de jeter un coup d'œil au livre.
Et oui, tout à fait, le livre, je rappelle. Donc, ça s'appelle « Accrédité, 7 ans au palais de Macron ». Voilà.
Merci.
Merci à toi, Nia.
Les amis, nous sommes sur opposte.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça, c'est artisanal, on est entre nous. C'est opposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement, non, abonnez-vous à Opposte.
J'encourage, faites un don à Opposte. Ah non, c'est là la caméra.
Abonnez-vous Opposte.
Et faites des dons à Opposte. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Opposte. Il faut donner
des
l'argent
dons,
pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, abonnez-vous Opposte.fr, Opposte.fr. Abonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer le récit, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir Opposte.
Abonnez-vous!
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à Opposte et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous!
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Opposte.fr, y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient Opposte, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à Opposte, il ne faut pas que ce soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard, il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, Opposte.fr.
Bravo.
Abonnez-vous au poste.fr.